couture.
Il est pas parfait.
Dans le mid.
C'est l'homme de la situation, à ce qu'on m'a dit.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Ouais, ben beaucoup de commentaires sur la messagerie. On a lu ça pendant la pause. Des auditeurs qui disent, écoute, les autoroutes à deux voies, les viaducs sont faits pour deux voies. Faudra faire toutes les viaducs.
Nous sommes foutus.
Et beaucoup de gens qui disent l'histoire des camionnages à Québec, c'est QSL aussi, hein, le port de Québec, il y a un projet de conteneur. Fait qu'on veut pousser ça peut-être aussi, au détriment du camionnage, je sais pas. Mais tu comprends que là, des conteneurs qui arrivent par bateau de la Chine, de l'Europe, de l'Afrique, débarquent ça à Québec, là, ça part comment? Le train peut en prendre un peu, je comprends, mais il y a des bateaux qui peuvent reprendre ça aussi, mais il va y avoir du camionnage pareil.
Parlant de route, Pierre, véhicule en flamme à la hauteur de Duplessis sur Charest, en direction ouest. On dit que c'est près de Duplessis, là, sortie 305, donc ça refoule un peu, c'est un peu plus compliqué.
Patience, hein? Voilà. Les copains, soyez patients sur les routes, parce que dans les prochaines années, la patience sera de mise. La région de Québec, voir Laurier, c'est épouvantable, le Dawa qui est là.
Pas juste là, il y a des nouveaux travaux. Là. Bref.
René Lévesque, ils ont mis des comptes partout, mais les travaux commencent juste quoi, à l'automne, à peu près. Là. Mais on vous prépare mentalement, on va vous préparer. Bon, notre médecin, il est là.
Yes.
Karim Elayoubi, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va bien, vous deux?
Oui, yes. Ça va bien. On voulait revenir sur toute la saga là, du docteur Marc Lacroix, qui avait été accusé, puis qu'il a fallu qu'il se défende. Finalement, ce qu'il a dit, c'était pas si pire que ça, finalement.
Ben, exactement. Ça, c'est assez intéressant. Puis, moi, je trouve que c'est non seulement les professionnels, pas juste les professionnels de la santé, mais ça fait jurisprudence, c'est le tribunal des professions. Okay? Ouais. Et ça veut dire que, juste pour les auditeurs, tout professionnel, plusieurs professionnels, là, dont médecins, infirmières, ingénieurs, inhalothérapeutes, tout ça, on est régi par avocat, par des autres professionnels, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut assurer la protection du public, qu'on peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la base. Maintenant, ces autres professionnels-là sont, eux, si par exemple vous êtes accusé devant votre ordre et vous avez vous avez une sanction comme ce que le docteur Lacroix avait eu, il y avait une sanction, là, je crois, là, qui était radiée une couple de jours, une journée ou deux. C'était pas énorme, mais quand même, c'était une sanction. Puis il y avait ça a des impacts là, quand même importants sur...
Au niveau de sa réputation absolument. Est attachée, là.
Absolument, ça, c'est très important à dire. Et lui, il a fait appel devant le tribunal des professions, qui est un tribunal supérieur au syndic, où on peut appeler. Donc, c'est la première démarche, vous pouvez appeler devant le tribunal des professions, puis ultimement, vous pouvez appeler devant la Cour supérieure. Docteur Lacroix n'a pas eu besoin de se rendre devant la Cour supérieure, il s'est rendu devant le tribunal des professions, qui a annulé la sentence que le Collège des médecins lui avait imposée. Et quand on regarde le jugement comme tel, le tribunal des professions ne dit pas que Dr Lacroix avait systématiquement raison scientifiquement sur ce qu'il disait. Rappelons qu'il avait eu des propos qui étaient... il n'y avait absolument rien de débile dans ce qu'il avait dit du tout, mais c'était des propos qui étaient à l'encontre d'un certain consensus de l'époque.
Ben, il parlait de l'OMS, il parlait des normes de l'OMS versus les normes que le gouvernement du Québec pouvait appliquer, puis il disait, on peut peut-être arrêter d'écouter l'OMS puis peut-être appliquer la logique, le gros bon sens de ce bord-ci, là.
Absolument. Et on était dans une époque à la pandémie où, lorsqu'on disait OMS, c'était presque sacré.
Faut dire qu'il y avait des juridictions comme le Québec qui suivaient à la lettre les directives de l'OMS, alors que d'autres juridictions disaient, on en prend et on en laisse, là.
Exactement, comme par exemple la Suède avait fait ça, on s'en souvient très bien. Et le pari de la Suède n'avait pas été si pire si on regarde un peu en rétrospective. Et donc, le tribunal des professions a dit, on ne statue pas si ce qu'il a dit, il avait raison à 100% sur le plan scientifique, là n'est pas le point. Par contre, il avait le droit de le dire au nom de la liberté d'expression, Parce que c'est toujours la question. C'est sûr que le tribunal des professions, il n'aurait jamais donné raison s'il avait dit qu'il faut prendre des colliers de noisettier pour guérir, pour guérir d'une COVID. C'est ça. Parce que ça,
Mais il s'exprimait, c'est ça. Ça relève de sa propre liberté d'expression.
Et exactement. Et tant et aussi longtemps que ce n'est pas dangereux pour le public, c'est bien ça. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, médecin puis vous avez des propos qui sont dangereux pour le public, que vous, en raison de vos propos, vous utilisez votre autorité qui fait en sorte que vous dites à des gens de ne pas avoir un traitement qui est essentiel pour eux, genre collier de noisettier versus chimiothérapie pour un cancer, c'est très grave. C'est pas du... Docteur Lacroix, il ne disait pas du tout ça. Est-ce que le tribunal des professions a dit non? Il a droit à sa liberté d'expression. Et ça, non seulement les professionnels, l'ensemble des professions régies par des autres professionnels vont gagner, mais moi, je pense que le public gagne également, parce que c'est important qu'il y ait des gens qui osent parler sur la place publique, que ce soit, peu importe, que ce soit des infirmières, des médecins, des ingénieurs, des avocats, pour informer le public. Puis des fois, on se trompe, on n'est pas parfait. Des fois, on a des opinions qui sont différentes, mais il faut croire à l'intelligence minimale des gens qui sont capables de se faire une tête en entendant des points de vue qui sont différents. Puis ça, c'est très bon pour le public. Et je pense que ça peut améliorer la qualité de l'information, parce que c'est sûr que si à chaque fois qu'on est régi par un autre professionnel, on va parler sur la place publique, puis on a une épée de Damoclès sur la tête, ben c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour nous, mais c'est pas intéressant pour le public non plus. Et je pense qu'ultimement, le public gagne de cette décision-là.
Non, mais il faut se rapporter dans le temps de la COVID. C'était pas intéressant pour personne, là. C'était pas le fun, en plus, de voir comment il y avait une censure qui s'opérait sur tout ce qui sortait un peu du lot. Puis là, on parlait pas de dire que les mesures étaient mauvaises, là. C'était de remettre en question peut-être le gros bon sens de comment on applique les mesures, là. Les policiers sont confrontés à ça tous les jours, là. Les policiers, il y a un livre de loi, mais si tu appliques ça avec du zèle, des fois, c'est le gros bon sens qui peut faire la norme générale. Là. Ben, c'était là-dessus aussi que ça portait. Là, lui, peux-tu poursuivre? Y a-tu une poignée ou ben il va peut-être dire on passe à autre chose?
Là, il faudrait poser la question à un juriste, à savoir que là, c'est toute la question du dommage.
Parce qu'il a été beurré, là. Ils l'ont beurré, puis les gens qui ont porté plainte l'ont beurré pas à peu près, là.
Bien, s'il y a des questions de réputation, il y a des questions de qualité de vie, là, c'est des dossiers qui sont longs. Hein. C'est des années d'anxiété, c'est des années.
Ben oui.
Je veux dire, à pas savoir si tu peux continuer à gagner ta vie, c'est des années à savoir qu'est-ce qui va t'arriver. C'est quand même très, très, très lourd de conséquences. Donc, moi, je ne suis pas juriste. Est-ce qu'il y a un dossier pour poursuivre? Il faudrait poser la question à quelqu'un qui a la compétence dans le domaine, mais c'est toujours la question à savoir est-ce qu'il y a eu suffisamment de dommages et intérêts. Là, ça va être à lui de voir avec ses avocats.
Ben, j'imagine avec ses avocats, voilà. Boisson énergisante.
Oui.
Tout un débat, un projet de loi présenté à la va-vite, pas de commission, comment on dit ça, là? Des commissions, pas d'enquête, mais des...
commission parlementaire.
Oui, commission parlementaire. On fait venir les gens déposent des mémoires, pour, les comptes, on regarde si ça va trop vite ou pas. Là, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça?
Ben exactement. À un moment donné, faut ramener les pendules à l'heure un peu. On n'arrête pas de ridiculiser Mme Blanchette Vézina là, avec l'histoire des pamplemousses. Qu'on laisse faire les pamplemousses un peu. Là. À un moment donné, c'est pas une pharmacienne, Mme Blanchette Vézina. Elle a pu, à quelque part, manquer un petit peu de nuance sur un petit point.
Non, mais on me dit que les pamplemousses, avec certains médicaments, ça peut devenir problématique.
Oui. La différence, c'est que par exemple, on parle beaucoup là, de l'interaction avec la statine, il y a d'autres médicaments aussi. La nuance que les experts ont amenée sur la place publique, c'est que l'interaction avec la statine, puis c'est vrai, ça cause pas une arythmie, ça cause pas une mort imminente par rapport à une interaction avec... Si le jeune va se clencher plein de Red Bull dans sa soirée, et en plus, il prend des psychostimulants. OK, cette nuance-là, c'est correct. Mais son point, c'était, est-ce qu'on peut étudier le projet? Puis c'est sûr que le Parti conservateur du Québec demande. Moi, j'ai passé la fin de semaine à faire un mémoire là-dessus qui va être déposé aujourd'hui, là, aujourd'hui, d'ici cet après-midi. Et c'est à savoir, on n'est pas contre l'interdiction à tout prix. Si la bonne chose à faire, c'est de l'interdire au moins de 16 ans ou au moins de 18 ans, où il faut regarder les chiffres comme tel, d'autres suggèrent moins de 16 ans, puis il y a de la littérature par rapport à ça, OK. Mais pourquoi il faut que ça se fasse aussi rapidement que ça? Et pourquoi, tant qu'à faire un projet de loi, ne pas regarder c'est quoi la bonne politique? Parce que c'est sûr et certain que si le gros problème, c'est le fait que les parents et n'étaient pas suffisamment informés du fait qu'un psychostimulant plus une dose importante de caféine peut causer une arythmie mortelle. Là, il y a un problème. Et nous, ce qu'on veut dire, de quelle façon l'INSPQ pourra faire des campagnes de sensibilisation? Est-ce que, parce que c'est pas normal que les gens ne le sachent pas, renforcer par, via des programmes de formation avec les autres professionnels pour que les médecins, les pharmaciens...
Bien, notamment, quand tu vas chercher tes médicaments à pharmacie, ton pharmacien, t'as-tu dit que si tu prends du Red Bull avec ça ou autre, ça se peut que ça se passe mal?
C'est ça. Et puis, c'est pas pour lancer la pierre à personne ici, mais c'est pour dire que, je donne un exemple très rapidement comme ça, Pierre. En 1992, on savait tous très bien que la cigarette, c'était mauvais. Par contre, les campagnes de sensibilisation aujourd'hui et la qualité des interventions des professionnels de la santé par rapport au tabagisme, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que c'était dans les années 90. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de formations, il y a eu beaucoup de renforcements qui étaient faits par la santé publique, par les autres professionnels aussi. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Même si on l'interdit, on ne dit pas qu'on est en désaccord absolu, mais même si on l'interdit, qu'on fait juste l'interdit, et les jeunes ne le savent pas, puis les parents ne le savent pas, bien, s'il y a un parent qui achète une bouteille, une caisse de Red Bull, bien, l'enfant va en prendre quand même, puis le parent, il n'empêchera pas d'en prendre. Vous comprenez un peu la dynamique. Donc, une bonne politique publique, c'est une politique publique qui s'assure que l'ensemble qui a le moins d'angle mort possible et qui s'attaque aussi qu'il y a des mécanismes de révision. Parce que ce qu'on a tendance à faire, on fait des lois rapidement, on fait des interdictions rapidement, mais on ne développe pas, on ne met pas à l'intérieur des projets de loi des mécanismes de révision pour s'assurer de l'efficacité puis de l'efficience de la mesure. Ça, c'est la base. Il faut faire ça.
Non, mais ça va vite. Puis surtout qu'on se disait que peut-être que la CAQ faisait aussi là, de la petite politique avant les élections. Là. Parce que les projets de loi qu'on veut passer à la hâte, c'est des projets de loi qui peuvent se servir de ça pendant les élections. Là.
Je peux pas présumer de ce qu'eux veulent faire et pourquoi ils l'ont fait. Tu sais, il y avait peut-être de très bonnes intentions, mais ultimement, je pense que ça va trop ça va trop vite. Et tant qu'à faire, parce que nous, ce qu'on demande, on dit, ben, la session parlementaire, Mme Blanchette Vézina, ce qu'elle a dit, elle n'est pas pressée de prendre ses vacances. Elle peut continuer à faire des consultations, si on veut, jusqu'à la dernière journée ouvrable avant la fête nationale. Donc, pourquoi partir en vacances si rapidement?
Mais pourquoi ils n'ont pas convoqué des commissions parlementaires là-dessus?
Oui. Bien, M. Duhaime puis Mme Blanchette Vézina ont eu ils ont eu gain de cause là-dessus. Et ils vont avoir des consultations, notamment avec l'Ordre des ce qui a été demandé là, par eux, l'Ordre des pharmaciens, l'INSPQ, le Collège des médecins et d'autres regroupements aussi, pour vraiment regarder quelle serait la meilleure politique publique. On est tous d'accord pour protéger les jeunes. Là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais tant qu'à faire un projet de loi, soyons pas si pressés de partir en vacances et faisons le bon, le plus efficace et celui qui va vraiment répondre aux problèmes qu'on vit actuellement.
Voilà. Dossier santé numérique, là, ce qu'on entend n'est pas très chic. Que les employés du ministère de la Santé ne peuvent pas parler, là, de toute évidence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Parce que là, ça semble être un bordel. Il y a des médecins qui commencent à parler. Puis là, même que la ministre n'est pas sûre si EPIC va être le bon système aussi.
Oui, c'est ça. Là, ça commence à être inquiétant, par exemple. Mais bon, il faut regarder ça. Là, ici, moi, je ne l'ai pas. Le centre où est-ce que je travaille, je le rappelle, je sais que vous le savez, mais je le rappelle pour les auditeurs. Donc, je peux pas dire est-ce qu'il est bon ou pas de mon expérience personnelle parce que l'hôpital où est-ce que je travaille ne fait pas partie des hôpitaux où est-ce que c'est déployé à l'heure actuelle.
Ouais.
Cependant, si on se fie à ce qui nous est rapporté par les journaux, par les médecins, dans mon entourage...
Parce qu'il y a des médecins qui ont décidé qu'ils parlaient contre cette politique-là ou directive là, du ministère de la Santé.
Exactement. Donc là... Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des retards dans des traitements qui sont des traitements importants, dont des traitements oncologiques, en raison de bugs du système, en raison, soi-disant, de manque d'accompagnement des équipes techniques. Moi, je reviens sur un point au départ qu'on avait discuté il y a quelques semaines. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était que c'était déployé, entre autres, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, qui est un des hôpitaux à plus haut débit en province, et avec des soins tertiaires qui sont là-bas, qui sont extrêmement névralgiques. Je vous donne un exemple. À ma dernière hospitalisation, pour l'hôpital où est-ce que je travaille, l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, est un corridor de service de surspécialité. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait, de ce qu'on a vu macroscopiquement, il y avait des délais pour certains transferts de patients pour des interventions qui nécessitaient des traitements surspécialisés. Donc, c'est pas de la faute du personnel, c'est de la faute du fait que le logiciel ne fonctionne pas bien à l'heure actuelle. Mais on se pose la question, puis moi je reviens là-dessus, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de le déployer dans des plus petits centres? Est-ce que c'est le bon logiciel ou pas? Epic, c'est une bonne compagnie en soi. Ils ont fait leur preuve à l'international, mais il y a différents degrés, différents niveaux d'Epic. Est-ce que nous, celui qu'on a choisi, est le bon pour le déployer au Québec en fonction là, de multiples critères? Je ne le sais pas. Mais quelque chose de certain, est-ce qu'il y a suffisamment d'aide technique? Est-ce qu'on l'a fait trop rapidement? Possiblement. Et l'autre chose, bien, c'est pourquoi l'avoir fait à Sacré-Cœur en premier?
Et pourquoi l'avoir fait à trois mois des élections? C'est l'autre question. Mais en même temps, ça va peut-être allumer du monde, puis peut-être que le prochain gouvernement, si ce n'est pas la CAQ, vont peut-être dire on tire la plug là-dessus. Là.
C'est tout à fait possible, mais le problème, c'est que, je veux dire, il y a des ententes, il y a des contrats.
Oui, ça coûte des...
Il va avoir des pénalités. Si, en effet, ce n'est pas le bon, il faut tirer la plug. Mais encore une fois, c'est qui paye? Bien, c'est le contribuable.
Là. On dit que juste pour les deux régions où on le teste, là, pour les 10 prochaines années, c'est plus d'1 milliard que ça va coûter.
Oui.
C'est même pas les autres régions, là. C'est juste deux régions où on le teste.
C'est deux régions, oui.
Ça fait peur, là, les coûts de toute l'informatique en santé.
C'est inquiétant. Il faut qu'il y ait des enquêtes là-dessus parce que c'est très inquiétant, ces coûts-là. En Alberta, je vous avais dit, j'avais parlé à une sous-ministre albertaine. En 2006-2007, ça avait coûté pour l'ensemble de l'Alberta, ça avait coûté 750-800 millions. C'est beaucoup, là, mais c'est un top.
Provincial, oui, c'est ça.
Provincial. Là, nous, on est pour deux secteurs, on pète le milliard. Je comprends qu'il y a eu de l'inflation depuis ce temps-là, mais écoutez, c'est quand même inquiétant, les coûts, parce qu'à un moment donné, comment on va faire pour payer ça?
Non, bien, c'est ça. Puis là, on le voit, ils ont trop dépensé, hein, aussi. Ils ont connu qu'ils avaient budgété de l'informatique alors que l'argent n'est pas là. Donc là, exact. Ça, c'est des problèmes à venir. Karim Elayoubi, médecin, toujours un plaisir.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Voilà. Lui, il parle.
Ouais.
Lui, il n'a pas peur de parler. Marc Lacroix, il n'y a pas grand médecin qui est sorti, là.
Non, en effet.
Pour essayer de voir un peu clair. Lui, il a jasé.
Du gros bon sens.
Les Red Bull, lui, il dit ça va trop vite. Ça prend un projet de loi, mais
non, il faut interdire. Il faut tout interdire.
Non, il faut étudier. Ben c'est ça, tu sais, là, on interdit cette...
C'est-tu bon d'interdire? Avec... Sens-tu des effets significatifs?
Et on est émotif.
Oui, beaucoup.
On est très émotif au Québec. Hein? Là, la Saint-Jean s'en vient, le monde est fou raide. Là. On perd la tête complètement. Il fait 20 degrés dehors, là, complètement. On est,
bien
on,
fou.
On n'est plus là. Le soir de la Saint-Jean, tout le monde va être sur un autre...
Planète.
Bon, hey, on ouvre les lignes après la pause.
1-88-670-9098, parlant d'interdire.
Oui.
Ouais, on a interdit au début de l'année scolaire, là, en septembre dernier, en 2025, les écrans dans les écoles.
Ouais.
Ça a-tu été bénéfique, ça?
Bien là, ce que je vois, puis là, il y a des directeurs d'école. S'il y a des directeurs d'école qui nous écoutent, les gens qui sont en autorité...
Les parents bien, aussi.
Oui, les parents... pas besoin de vous nommer là, en passant. Là. Est-ce que ça a été bénéfique?
Oui, voyez-vous une amélioration auprès de vos jeunes?
Parce que là, on dit que dans plusieurs écoles, la participation aux activités parascolaires a augmenté.
Bien là, c'est parce que s'ils n'ont plus rien à faire, ils sont plus sur les écrans, j'imagine qu'ils trouvent d'autres choses.
Ben, moi, je trouve ça positif.
Oui.
Je trouve ça positif.
Mais ça n'a pas pu être une job de parent, ça. Il faut absolument interdire.
Ben là-dessus, moi, le cellulaire... Ben non, mais...
T'sais, on en a parlé longtemps, là.
Oui, mais le cellulaire, c'est parce que là, ça devenait problématique en cours. Là. Le monde sortait le cellulaire. Moi, j'aurais mis, là, tu mets ton cellulaire, tu déposes le cellulaire dans une poche en avant. Mais c'est parce que le problème, c'est entre les cours.
Ah non, c'est ça. Ils se parlaient plus. Ça a l'air que c'est positif, l'interdiction. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, moi, je veux des cas.
Okay.
Parlez-nous de vos enfants ou de s'il y a des directeurs d'école ou comment vous avez vécu ça à l'interne puis comment ça l'a évolué. On peut-tu être positif?
Oui, si c'est positif, let's go.
On est positif après la pause.
88-670-9098.
Couture dans le mid. Radio. X.